Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre dans cette lorgnette spéciale municipale. Je suis avec le candidat de Lutte Ouvrière, il représentera une liste également aussi ici sur Blois. Bonjour Michel Villa.
Bonjour.
Comme pour les autres, on va pouvoir échanger sur l'enjeu de votre présence dans ce scrutin municipal. Donc, comme je le disais, vous êtes la liste Lutte Ouvrière. Vous avez, vous, décidé à Lutte Ouvrière, alors je crois que c'est au niveau national, hein, d'être présent dans beaucoup de villes,
250.
Notamment de grandes villes, 250, pour faire valoir un message un peu différent et pour ne pas laisser vos messages habituels hors de cette campagne électorale.
Oui, effectivement, nous on se sert de tous les moments forts de la vie politique, et les élections municipales comme les présidentielles en font partie, pour dire nos idées. Effectivement, nos idées elles sont à contre-courant de ce qu'on entend dans tous les médias. Je pense qu'effectivement, c'est pas les élections par exemple qui vont changer la face du monde. Mmh. Alors ça peut paraître paradoxal parce qu'on s'y présente.
Ouais, c'est ça.
Mais en fait ça l'est pas parce que
mais c'est pour faire exister le débat,
voilà,
j'imagine.
Effectivement, c'est pour parce que si on met jamais nos idées au centre du débat, jamais de la vie ça pourra faire tilt pour certaines personnes. Donc notre liste, effectivement, c'est 43 travailleurs. C'est des personnes qui sont qui sont caristes, qui sont plombiers, qui sont maçons, qui sont infirmiers, enseignants, qui sont pas des ambitieux de la politique. Hein. Ils voient très bien que tout tourne grâce à eux, à nous. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas notre mot à dire sur les priorités économiques au niveau municipal comme au niveau national.
Alors quels sont justement les sujets dont vous parlez qui ont du mal à exister dans une campagne, qu'elle soit municipale ou nationale, et que vous désirez, que vous voulez incarner à travers cette candidature?
Nous, on pense vraiment que le changement, il se produira uniquement par la lutte entre le monde du capital d'un côté, qui détient tous les pouvoirs médiatiques, financiers, économiques, et de l'autre, les travailleurs qui font tout tourner la société. Mmh. Et donc ça, déjà, c'est vraiment très important, parce qu'il faut se dire que tout ce qui est sécurité sociale, congés payés, retraite et compagnie, c'est pas tombé comme un fruit mûr. C'est qu'en fait, il y a eu des travailleurs qui ont imposé un rapport de force, mai 68, 15 jours avec 9 millions de grévistes, et qui a permis de faire reculer un pouvoir qui était droit dans ses bottes. Et donc ça, c'est effectivement pour une mesure sectorielle qui n'est pas négligeable. Hein. Mais nous, on pense effectivement que ça peut être, ces genres d'acquis peut être généralisé pour tous les secteurs de la société, et la seule solution, c'est que c'est les travailleurs qui prennent les décisions, qui priorisent les secteurs économiques à développer. Nous, on dit... pourquoi, par exemple, faire des montres à 100 000 euros, des yachts de 16 mètres, plutôt que développer les services publics ou faire développer des IRM de telle façon qu'on n'ait pas une attente impressionnante.
Ouais.
Donc ça, c'est des choix. C'est des choix. Alors après, ceux qui sont au pouvoir, donc les capitalistes, avec leur relais politique, avec toutes les nuances qu'on connaît, la droite, la gauche et le centre, eh bien, eux, c'est les décisions qu'ils prennent, c'est à la lumière de qu'est-ce qui va nous rapporter le plus d'argent. Quel est le profit qu'on va pouvoir générer? Eh bien, effectivement, isoler les bâtiments, ce n'est pas un profit à court terme qu'on peut générer, donc, qui vont s'accaparer. Donc, ce n'est pas un choix qui est fait. Eh bien, nous, les travailleurs, puisqu'on fait tourner la société, nous, on serait à même de dire, voilà, ça, c'est la priorité. On préfère ça plutôt que l'armement, a fortiori, bien sûr.
Il y a aussi l'idée, alors, qui est transversale, c'est ce que vous venez de dire, notamment sur des questions écologiques. Ce sont les salariés qui sont le mieux à même de faire remonter ces besoins et d'imposer, via le rapport de force, on en revient à ce mot-clé dans le programme et dans les valeurs de Lutte Ouvrière, des questions aussi qui ne sont pas liées que au social, mais qui sont liées aussi à l'environnement. On l'entend dans votre discours.
Oui, bien sûr, parce que...
À l'environnement et d'autres sujets, mais voilà, toujours l'idée étant de s'appuyer sur les remontées et les discours des salariés, c'est ça.
Bien sûr. Effectivement, le cadre de vie, c'est important. important. Mm. Quand on voit que les canicules s'enchaînent, quand on voit que les inondations, pareil aussi, s'enchaînent, quelque part, toujours pareil. Hein, ceux qui ont des maisons les mieux isolées, qui sont en hauteur et compagnie, c'est toujours la même classe sociale. Et qui c'est qui va payer les pots cassés justement de ce changement climatique en premier? Ce sont les travailleurs. C'est un bon exemple parce que je pense que par rapport à la crise écologique qu'on vit, les mesures capitalistes, ça peut pas être des solutions, parce que toutes les mesures qu'ils prennent, c'est des mesures à court terme pour une petite partie de la population qui sont les capitalistes. Et justement, l'écologie, c'est rigoureusement le contraire. C'est du long terme et c'est pour le bien commun. Donc nous, on est anticapitaliste, mais anticapitaliste, c'est pas une finalité, parce qu'on peut pas être anti quelque chose. Nous, on est communiste, on est un mouvement communiste, et puis il faut un moyen, et le moyen, c'est la révolution. Donc on est communiste et révolutionnaire. Alors je précise quand même que la révolution, c'est pas une tache de sang à chaque coin de rue. Ça, c'est plutôt la contre-révolution. Il y a plein d'exemples historiques. Ouais. Si vous me réinvitez,
et d'actualité, évidemment.
Voilà.
Malheureusement.
Mais c'est surtout la contre-révolution, mais après je comprends, les capitalistes qui ont un pouvoir énorme, qui ont eu un pouvoir depuis des siècles, là on leur dit maintenant c'est fini, la fête est finie, je comprends qu'ils deviennent agressifs, et ils le seront, c'est pour ça qu'il faudra que la classe ouvrière s'organise pour essayer de changer les choses.
On a beaucoup, nous, parlé avec les candidats d'éducation populaire. Quelle est votre approche de ce grand mot-clé aussi? Alors dans l'éducation populaire, y a donc des associations qui sont... et vous avez sorti le mot, donc je me permets de rebondir, qui œuvre pour le bien commun, donc les associations, on en est une parmi des dizaines et des dizaines d'autres sur le Blaisois. Est-ce que ce terme vous parle à lutte ouvrière, et comment il traverse vos valeurs et vos programmes ici pour les municipalités?
Oui, à travers l'éducation populaire, moi je parle de la culture en général.
Ouais.
La culture générale, c'est un bon exemple. Là, on vient de voter, les sénateurs et les députés viennent de voter le budget, et j'ai vu qu'il y avait 173 millions d'euros à moins par rapport à l'année dernière, qui elle-même était en recul par rapport aux années précédentes. Est-ce que c'est étonnant? Non, parce que la culture, ça peut être considéré par certains comme superficiel. Mm-hmm. Nous, bien sûr, c'est pas notre cas. Hein. Et puis, est-ce que ça rapporte assez? Voilà, donc ça, c'est les choix de société. Nous, on pense que ça rapporte, parce qu'effectivement, le fait d'élever la conscience des travailleurs, c'est toujours intéressant. J'ai vu là que effectivement le fonds PEPS, là, qui est le fonds pour les spectacles vivants, a été amputé je crois que c'est 46 millions, j'ai cru voir. Qui c'est qui va être impacté? C'est les intermittents du spectacle, et qui ont déjà été rossés par toutes les mesures de droite, de gauche, notamment Hollande, pour ce genre d'activité à travers les retraites. Les bénéficiaires aussi, des usagers de la culture, il y aura une offre qui sera moins importante. Or, dans le spectacle vivant, ce qui compte, c'est justement la création indépendante, et ça, on est en train de le briser. Mais d'ailleurs, je note que la ministre de la tutelle de la culture,
l'ancienne ministre de la culture,
qui a fait voter ça, c'est Rachida Dati, mm-hmm. et qui est, on va dire, qui a une place particulière, on pourrait dire même d'une alliance ici à Blois, parce qu'on voit que Malik Benachka, c'est à la fois LR et puis
Renaissance,
mm-hmm. c'est-à-dire de Jonquière et lui-même. Donc après, moi j'ai écouté un petit peu son émission sur
notre
radio.
Antenne.
Voilà, et bien la seule chose que je peux dire, c'est que c'est bien beau d'avoir des projets, mais si à l'échelon au-dessus, on coupe les budgets, tout ça c'est l'esbrouf. Voilà.
quels sont les retours que vous disiez dans la presse que vous n'aviez eu aucun mal à constituer cette liste de 43 noms, malgré le fait que vous soyez, encore une fois, je ne vais pas vous faire affront, une petite liste. Donc vous tractez beaucoup, vous êtes très actif sur les lieux de socialisation, les marchés, des manifestations diverses. Quels sont les retours qu'on vous fait quand on échange avec vous sur ces thématiques que vous portez?
Alors, quand on dit que ça a été facile, déjà on s'y est pris tôt. ce qui aide un petit peu.
C'est un avantage.
Deuxièmement, on est des personnes qui sont opiniâtres et donc effectivement, on essaie de s'atteler au maximum pour aller au contact des gens. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent en fait? Leurs préoccupations, c'est quoi? Ben moi, j'irais des nombres autour de trois. J'irais ben le pouvoir d'achat, l'emploi et puis la guerre. Le pouvoir d'achat, ben oui, le pouvoir d'achat, effectivement, quand on voit qu'il y a l'inflation, quand on voit que le prix du pétrole augmente, ben tout ça, effectivement, tout ça, c'est lié. L'emploi, on voit ce qui s'est passé, enfin, qui se passe à Enerflu, enfin, à Blois, mais on peut parler de Brandt, on peut parler de Casino, une époque, avec les magasins Casino.
Ouais.
Donc, effectivement, ça inquiète, hein. Plus avoir d'emploi, ça change complètement une dynamique dans une vie. Et puis, bon, la guerre, je pense qu'il n'y a pas besoin de développer. Enfin, si ce n'est que si, il y a quand même besoin de dire que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuit porte l'orage. C'est pas de moi. Mais...
Notamment ici en Loire-et-Cher, hein, il y a des usines d'armement
on
le rappelle.
Bien sûr, et on peut dire quand même que les premiers à subir les affres de la guerre, ben, ça sera les travailleurs, parce qu'on demandera déjà de produire des armes à grande quantité à cadences importantes. Bien sûr, de s'en servir. D'accord. Et puis en aval de la guerre, ben il faudra reconstruire et ce sera toujours les travailleurs qui reconstruiront, du moins les survivants. Et de l'autre côté, ben, les capitalistes, les marchands de canons, les marchands de charbon et compagnie, eh bien eux ils s'en mettront plein les poches. Bon, j'avoue que c'est pas une nouveauté, mais nous justement ça c'est une approche dont on insiste parce que on sait très bien que le capitalisme est tellement perdu dans ses contradictions que au bout d'un certain moment ça finira comme ça. Ça finit comme ça. Alors la Première Guerre mondiale, ça il y en de même pour la seconde. Voilà, donc effectivement, quand il y a plusieurs impérialismes qui se font face, eh bien, au niveau des interstices, ben ça, il y a des étincelles. Les étincelles se traduisent par des déflagrations.
Alors, comment ça se passe? On explique, on échange. Des fois, c'est un peu long. On bataille un peu sur le terrain des idées avec les gens que vous croisez et auprès de qui vous tractez.
Oui, ben en fait, c'est un échange. Nous, effectivement, c'est pas, nous, on n'est pas là pour donner notre point de vue. On est là pour échanger. Et puis après, on dit, ben voilà, il existe une alternative qui est un contre-courant, qui est énormément un contre-courant, mais qui vaut le coup d'être transmise. Peut-être qu'il faudra le transmettre aux générations suivantes, qui transmettront aux générations suivantes, peut-être que lorsqu'il y aura une fenêtre qui s'ouvrira, il faudra être organisé, il ne faudra pas se perdre dans des mesures de diversion, comme le nationalisme, comme le communautarisme, suivre un gourou, et il faudra penser que c'est la classe ouvrière, et que la classe ouvrière, les travailleurs, qui pourront changer ça. Et il faudra savoir qu'en face, ils seront...
Très organisés.
Donc il faudra...
Bien préparés.
Voilà, bien préparés. Alors nous, on est nombreux, mais il faudra être organisé. Donc ça sera important.
Comment, vous avez cité le mot, je me permets de rebondir, comment, à lutte ouvrière, quels sont les arguments, donc au-delà de l'anticapitalisme? Vous allez sans doute me répondre.
Enfin, mouvement communiste révolutionnaire.
Mouvement communiste révolutionnaire. Comment on aborde la question justement de la montée des nationalismes? Est-ce que vous le liez directement au capitalisme quand vous expliquez ces enjeux-là?
Bah, disons que, en fait, justement, la classe ouvrière est nombreuse. Elle n'a jamais été aussi nombreuse dans l'histoire, même, je dirais, même de l'époque de Karl Marx. Mais l'une des solutions qu'ils ont trouvées pour justement nous mettre une grosse pierre dans la chaussure, c'est justement la division. Et c'est contre justement cette division-là que nous, on s'offusque. C'est-à-dire que moi je me sens plus proche d'un couvreur guinéen, d'un boulanger turc ou d'un infirmier espagnol plutôt qu'un capitaliste français. C'est pas parce qu'on a la même nationalité, c'est pas parce qu'on parle la même langue que on doit se sentir solidaire de ce genre de personnes. Non, c'est eux, c'est les ennemis, il faut pas aller chercher je ne sais où, hein, ils sont dans notre pays et c'est eux qui ont les manettes. Hein. Je répète, les 90% des médias sont possédés par 9 milliardaires. Les 4 plus grands milliardaires de France, ils ont autant d'argent que le budget national français. Enfin, quand on réfléchit, c'est 4 bonhommes, quoi. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Bon, et ben voilà, ils cherchent à nous diviser, et ça marche malheureusement. ça ne marchera pas tout le temps. Il faudra effectivement dire à la classe ouvrière que, ben, qu'on est tous unis et que dans notre diversité, ce qui est une chance d'ailleurs, eh bien, il faut passer au-delà et puis combattre les vrais ennemis.
Alors pourquoi voter pour Lutte ouvrière dimanche 15 mars ?
Ben, parce que, alors, contrairement à ce que j'entends des fois, il y en a qui disent qu'on ne veut pas être élu. Ben si, on veut être élu. Non, mais je rigole pas. On veut être élu dans le sens où nous, on veut être les yeux et les oreilles de la classe ouvrière. C'est-à-dire que on veut effectivement, dans le conseil municipal, dire, ben, essayer de voir tout l'argent qui passe dans des projets de construction, de gestion, et donc c'est toujours voir un transfert de l'argent public vers les poches des privés. Et ça sincèrement, ça pèse. Je veux dire, dans la prochaine campagne 2032, voilà, nous on a relevé que le conseil municipal adopté par la majorité ou une partie, a voté tel budget pour telle entreprise, alors qu'elle est déjà rentable, alors que, ça montrera les connivences qu'il y a entre la classe capitaliste et puis les potentats locaux. Ce qui est un petit peu ce qu'on vit à l'échelle nationale, mais ici, à Blois ou ailleurs, hein, c'est pas spécifique à Blois, bien sûr.
Un dernier mot pour faire entendre vos valeurs, le programme que vous défendez, Michel Villa,
alors,
à Lutte ouvrière.
Deux fois que vous employez le mot valeur, nous on n'est pas sur le domaine de la morale. Nous on est domaine effectivement du côté efficace. Et nous on pense effectivement que pour changer la société, il faut que ce soit ceux qui la font vivre. Et bien, ils aient la possibilité de la diriger. Voilà. Et donc, effectivement, prioriser les secteurs économiques qui sont importants.
Alors, lesquels ?
La culture, l'école, les hôpitaux.
Les services publics d'une manière générale, la santé.
En général, oui. Favoriser la transition écologique. Tout ça, c'est des choses.
L'accompagnement social à l'emploi, au logement, etc.
Ouais. Non, mais par exemple, effectivement, on trouve hallucinant qu'il y ait des personnes qui soient obligées de travailler 60 heures par semaine, avec un salaire qui n'est pas adéquat avec ce nombre d'heures. Et puis, à côté, il y a des personnes qui sont au chômage et en plus on les culpabilise en leur disant vous êtes des personnes surnuméraires, vous servez à rien, une compagnie, vous êtes inutile. Non, en fait, ça serait si simple de partager le temps de travail, ça permettrait effectivement aux gens qui sont au chômage de se sentir partie intégrante de la société, ce qui n'est pas négligeable parce qu'effectivement, quand on voit qu'il y a des personnes qui sont en souffrance psychologique, forcément, moi, des fois, quand on se sent inutile dans une société, on se dit mais à quoi bon, quoi, à quoi bon.
Puis c'est un cercle vicieux en général.
C'est un cercle vicieux, effectivement.
On n'est pas encouragé, notamment par le système capitaliste.
Voilà.
Eh bien, merci Michel. On va donc évidemment rajouter cette interview avec les autres candidats pour vous permettre d'avoir un panel suffisamment représentatif des élections municipales qui se tiennent ici à Blois le 15 et le 22 mars. Merci à tous. Allez-y.
Ah, juste une petite chose.
Allez-y,
le jeudi 12 mars, on fait une réunion publique à la ferme de Brisebar à 18h30.
Très bien, c'est noté. Merci Michel, donc candidat Lutte ouvrière à cette élection municipale de Blois. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés.